Et donc je donne maintenant la parole à Thamès Cornette, qui est psychologue, et à Jean-François Verviers, qui est pédopsychiatre, tous les deux du centre hospitalier de Luxembourg, à propos de objets et rituels d'apaisement et de soins.
Merci pour cette introduction. Merci également à Jonathan Aouvi, Anne Gérard, de nous accueillir si bien, de nous permettre de passer des très bonnes journées, ainsi que à l'association Antigone et en particulier à Christine Viverche, sa présidente. L'accueil et la notion d'apaisement nous semblent d'emblée très importants dans le contexte de consultation dans lequel on est amené à intervenir, donc notamment Thamès et moi, mais d'autres personnes qui sont certainement présentes aussi au travers de cette intervention, puisque nous travaillons donc dans un centre petite enfance qui est une unité qui est spécialisé dans un service donc à vocation unique au Luxembourg, donc population de 500 000 habitants. Le centre petite enfance est amené à faire des diagnostics précoces d'autisme et de troubles envahissants du développement, mais qui sont de plus en plus un ensemble très hétérogène de pathologies qui affectent également les modalités d'attachement. Donc on le verra d'ailleurs dans la situation clinique. Et donc, il nous a paru important de pouvoir apporter un cadre qui permette justement le support de l'élaboration, un cadre apaisant que les personnes puissent, s'apprivoiser. Par rapport à une différente constatation clinique. La première étant, bien sûr, le fait que le Luxembourg est un pays multiculturel, qui a une identité collective très métissée, très cosmopolite, donc avec plus de 43% d'étrangers donc, qui y vivent. Et donc la dimension transculturelle et multilinguistique est inhérente aux soins. En second lieu, avec le fait que le diagnostic d'un enfant présentant un trouble envahissant du développement est évidemment un moment extrêmement difficile, très confrontant, très interpellant, d'autant plus que la majorité des familles qui nous consultent sont adressées avec cette suspicion-là, et que ça nous semble évidemment très important de pouvoir d'emblée, et ça c'est vraiment Marie-Rose toute son équipe qui nous a sensibilisés à ça, de pouvoir explorer dans un premier temps les systèmes d'affiliation, d'appartenance culturelle qui permet progressivement de créer un cadre co-créé, co-construit et certainement mouvant auquel il s'agit de s'affilier. Le cadre pour nous, c'est bien sûr à la fois les dispositifs externes, les modalités d'organisation spatio-temporelle. On va essayer un peu l'illustrer au travers de quelques dias, mais je peux mettre Thamès aussi comme grande voyageuse à porter sa valise qu'elle va nous ouvrir. Mais également le cadre interne qui est à la fois une compréhension psychopathologique et développementale du trouble, mais également une compréhension et une approche anthropologique et transculturelle de la souffrance, puisque on s'est rendu compte que justement dans ces consultations, la majorité, on a une surreprésentation dans ces consultations, donc autisme, on a une surreprésentation par rapport à la population générale de familles qui, au sein même de la constellation familiale, pratiquent un plurilinguisme, mais également sont issues de cultures très différentes et ont toutes une histoire migratoire, hein, puisque vous voyez que 62% des familles immigrées sont immigrées avant la naissance de l'enfant, hein, donc 50% dans la naissance de l'enfant, et vous voyez que plus de 75% pratique un plurilinguisme soit intrafamilial, soit par socialisation. Donc c'est clair que cette dimension-là doit d'emblée être prise en compte. Alors on va surtout se centrer sur l'accueil, les modalités de réception de l'enfant, et Thamès va vous présenter d'emblée une situation clinique d'un enfant qu'elle va vous détailler, qui a été adressée d'ailleurs de façon assez difficile par les professionnels, la famille ne voulant pas consulter chez nous, donc pour ce diagnostic de suspicion d'un trouble d'Asperger, donc pour un enfant de 7 ans.
J'aimerais bien remercier Jonathan. Sylvie, Anne, l'équipe d'Antigone, Dole Besançon et aussi Marie-Rose pour sa capacité incroyable de faire des liens, d'accueillir des personnes qui viennent de partout avec différentes cultures, pensées. Je me demande qu'est-ce qu'il y aura de nouveau encore dans les prochaines années. Mais il y a toujours l'ouverture. Alors, j'aimerais bien vous parler de Jules César. Et on part au Portugal. On par les trains, par la mer, par l'avion, probablement par la TAP, par l'avion. Jules César, c'est l'aîné d'une famille de deux garçons, dont les parents viennent d'un village près de la mer, au nord du Portugal. Jules a 7 ans et son frère 5 ans. Scolarisé au Luxembourg, au centre de logopédie, c'est un endroit qui prend en charge les enfants avec des problèmes de langage, de communication. Jules, il y a comme langue maternelle le portugais, langue de l'école, le luxembourgeois, et il a commencé à parler en allemand. En plus, c'est la langue de la télévision, les dessins animés. Alors, chose que les parents, langue que les parents ne comprennent pas. Ce qui inquiète les enseignants est le caractère solitaire de Jules, qui c'est une personne vraiment isolée. En classe, c'est un enfant monologue, avec tellement de langues dans ces pays-là, il arrive à être monologue. Et il participe aux apprentissages en groupe. Les enseignants suspectant un trouble autistique, raison pour laquelle ils nous adressent. Et en consultation, Julio est un enfant actif, au visage pâle, expressif, et qui parle un peu comme ça. J'ai du mal, j'ai dit, écoutez, je suis un peu déjà âgée, je n'entends pas très bien, je peux parler un peu plus fort. Alors, l'enfant s'intéresse au crayon, dessine très bien, et il s'intéresse aux voitures, et il les aligne au bord de la table. Il prend les meubles, les poupées, il fait tourner sur eux-mêmes, avec une dextérité étonnante. Curieux et explorateur, bien sûr, Jules ne s'apaise pas que quand il manipule les objets à sa portée et en commentant ses actions dans un jargon très, très, très personnel. Alors, je me dis, c'est pas les portugais, ça, quand même, je ne comprends pas. En version perpétuelle, alors, il raconte son histoire, il passe du poisson au grenouille. Tu peux passer du poisson au grenouille ? Merci. J'ai mes acteurs à côté. Hein. Il dit tout haut, toutes ses pensées, c'est-à-dire il passe d'un côté à l'autre, il raconte son histoire. Et la maman a commenté, mais il raconte ses pensées. Julio, il est très fasciné par les mécanismes comme l'ouverture automatique des portes, des ascenseurs. Il est expert pour les appareils électroniques, à mon avis plus que moi pour l'ordinateur, pour le GSM. Et c'est un garçon qui est assez doué. Mais quand je lui tends la main, surtout là, Jean-François, il est en la main, il se colle à côté de Jean-François, il manipule sa montre avec un plaisir énorme, sans se préoccuper de la réaction que Jean-François pourrait dire, écoute, c'est ma montre, ne touche pas. Bon, les parents expérimentent leur inquiétude permanente et leur sentiment d'être impuissant et incapable pour élever Julio César. Il n'a jamais de repos et même la nuit, il veut jouer. Il dort avec nous car je suis obligée de les surveiller en permanence. Il s'est déjà enfoui pour se retrouver dans la voiture. En plus, madame, monsieur, il adore la voiture. Il aime bien se promener en voiture. Quand il était petit, mon mari l'a ramené pour faire un tour en voiture pour qu'il puisse s'apaiser sans dormir. Je lui dessine un poisson, non un monstre, dans un bocal. Il nous invite à associer son dessin. Et nous invitons les parents aussi. Entre les vagues de la mer et entre la situation actuelle. Je dois lui construire, dit le papa, un lac dans les sables pour qu'il puisse jouer sur la plage à côté de nous. Il a peur des vagues, il a peur de la mer. Il préfère la piscine, il s'amuse bien. La mère associe son expérience traumatique à l'accouchement. Et je pense à Malini qui ne portait pas de bracelet à l'époque. Alors, je pense, maman disait, l'âme de Julio, à mon avis, elle est encore en errance. Maman disait, il était coincé. Il ne pouvait pas ni avancer ni reculer. Il a avalé du liquide dans ses poumons. Imaginez quelqu'un qui veut sortir, c'est une souffrance terrible. Alors, papa, il disait, alors on a fait une césarienne pour qu'il puisse sortir. Maintenant, papa, il a dit ça, il est emprisonné dans sa pensée. C'est comme un ordinateur qui tourne sans arrêt, madame. Il n'a pas d'écran. J'ai fait 2 années d'études de psychologie et je crois que mon enfant, qu'il est autiste. Durant ce temps, Julio César dessine une usine avec un soleil. Là, ça a compliqué. Il disait, c'est une fabrique. Alors, pour comprendre ce qu'il dit, interprétariat côté parent. Hein. Il disait, c'est une usine, c'est une fabrique de machines. Il y a les camions, part et transporte des boîtes. Où va-t-il? Lui pose la question. Il ne sait pas. Il réfléchit, il murmure doucement. Il roule sur la route avec des jouets et il les conduit aux enfants. Il enchaîne avec un dessin, lui, son frère. C'est moi qui ai gagné cela. C'est moi qui ai gagné ces jouets. On observe ainsi un enfant qui, bien qu'il en développant les histoires très courtes et définies, avec certaines rigidités dans la pensée, montre aussi une étonnante résonance avec les thèmes abordés par les parents. Ceci échappe aux parents et commente. Le monde doit être comme il veut. Il n'arrive pas à faire des changements dans sa tête. Il fait une crise si sa chambre n'est pas rangée comme il l'a quittée. Il doit s'habiller toujours lentement dans les mêmes ordres. Et non, on s'adapte, mais pas les autres, pas la société. Moi, je suis un père qui voudrait tellement montrer à mon fils qu'est-ce que c'est la liberté. La consultation suivante, les parents s'excusent de leur absence de la dernière consultation. On a dû lui couper la langue, nous précisons. À moi, j'avais dit ça. On a dû lui couper la langue. Il y a un frein dans la langue, mais ça n'a rien changé. Il parle toujours aussi mal. Jules César, il enchaîne avec un dessin des avions qui partent dans les ciels. On va au ciel. Les parents reconnaissent la sigle TAP. Ils évoquent leur retour au Portugal chaque été. Les parents se sont progressivement réconcilié avec la famille paternelle qui, en fait, il y a eu un conflit. Les papas des messieurs, les grands-pères attendaient que les messieurs reprennent l'entreprise familiale. Et monsieur a décidé de partir au Luxembourg. Alors, c'était un cousin qui a repris l'entreprise. Mais ils ont aussi discuté sur la question des prénoms. Julio César, c'est un vainqueur qui aura toujours raison dans l'histoire. Pour son frère, c'est comme Alexandre Magno, le nom de son petit frère. Je ne voulais pas d'un prénom portugais, monsieur et madame. Le mien, c'est Maria Alicia, qui disait madame. Alicia, vous savez, c'est une mendiante d'un village dont tout le monde s'est moqué. Le prénom de papa, c'est José. José, c'est le premier prénom du père. Et c'est lui de son oncle aussi, un oncle qui était tellement bien aimé par la famille et respecté, il est devenu riche en partant à Angola. On peut ainsi comprendre que les choix de prénoms traduisent les projections individuelles parentales au dépend d'un certain degré d'effacement culturel. Julio dessine des routes avec les voitures qui n'avancent pas, car il y a un accident dans une station d'essence. Il y a de feu, vous savez. Les personnes sont mortes. Les personnes sont conduites à l'hôpital. La voiture va au garage. Les personnes sont blessées partout, mais elles sont sauvées. La fumée des voitures empêche les avions de partir. Ils pourraient tomber car ils ne verront rien. Jules ne veut pas nous laisser son dessin. Il voudrait donner à sa maman. Il hésite. Puis il veut en faire une photocopie pour nous en donner un exemplaire. Bon, nous terminons la consultation sur un compte en tout en laissant. En plus, c'est l'habitude de Jean-François. Ça, chaque fois, il sort un compte de sa valise. Alors, on s'adapte au compte. Il raconte. Il était une fois sur les rives d'une terre lointaine, un petit village de pêcheurs où régnait la paix et le bonheur. Bon, chaque année en début d'été, les vents doux et puissants gonflaient les voiles des bateaux et amenaient au loin. Quand les marrons jetaient leur filet, ils pêchaient d'énormes poissons d'argent et remplissaient leur cale. Ils rentraient au village avec leur famille. Ils allaient au marché et où venaient les gens de partout, de tous les horizons, et achetaient leurs poissons. Ainsi, les pêcheurs y gagnaient leur vie, ils nourrissaient leurs enfants et ils étaient gais et bien portants. Une année pourtant, les vents oublient de souffler et les bateaux restent. Les filets demeurent pliés et personne n'a vu passer le moindre poisson d'argent. Mais au conseil des anciens du village, des anciens marins, quelqu'un a dit à tout le groupe d'aller demander conseil à Ignacio, un vieux pêcheur qui habite tout au long de la montagne. Et que les gens disaient, ça s'est raconté dans les villages, qu'il était tellement isolé et triste parce que il, depuis le départ de sa fille unique et adorée qui avait épousé le roi des mers. Les marins y consultent Ignacio qui les écoute en silence. Et après, Ignacio il va dans un armoire et il cherche une vieille valise. Et il prend dans cette valise un foulard. Il disait, j'ai porté ce foulard toute ma vie et la chance m'a souri. Je vous donne, regardez, il possède 3 nœuds. Lorsque vous déferez les premiers nœuds, le vent soufflera et vous pourrez naviguer. Et après, lorsque vous déferez les deuxièmes, les seconds, vos filets s'empliront des poissons. Mais surtout pas les troisièmes. Il ne vous apportera que de malheur. Bon, dès le lendemain, les marins ont défait les premiers nœuds. Ils ont eu beaucoup de vent. Et après, ils ont décidé de défaire les deuxièmes nœuds. Alors, toutes les paniers étaient remplis, tous les filets étaient remplis de poissons argentés. Ils étaient tellement contents, rentrés au village. Tout le monde avait quoi manger. Mais ils ont commencé à discuter. On va défaire le troisième nœud. Et nous aurons encore plus de poissons. Nous les salerons et les fumerons pour en faire des provisions. Certains pêcheurs protestent en disant, Ignacio nous avait dit quand même pour ne pas les faire, parce que c'était un nœud maudit. Mais les autres insistent. Bon, ils vont décider. La mère détache d'elle-même un foulard qu'elle a porté autour du cou. Et elle a fait 3 nœuds et donne à Julio César. Nous les invitons à imaginer la suite de l'histoire dans la prochaine consultation. La rencontre suivante, Julio nous ramène le foulard de sa mère, dont il engraine les nœuds en reprenant l'histoire qu'il complète. Les marins défendent le troisième nœud. Une grande tempête va pousser les marins dans leur bateau sur les rochers et ils vont se casser sur la plage. Les marins n'ont plus de bateau et plus de poissons. Ils ont faim. Ils décident alors d'acheter un grand bateau, très solide, mais qui coûte très cher parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de poissons. Comment ils vont les faire? Alors, ils voient ces grands bateaux chaque fois dans leur tête, mais ils n'ont pas d'argent. Ils décident d'en construire eux-mêmes, mais ils aussi n'ont pas quand même assez d'argent pour acheter le matériel. Pour les papas, dès la fin de l'histoire, ne sera pas heureuse, car la tempête avait tué tous les bons marins. Moi, je suggère à ce moment-là, en fait, tu n'as pas suggéré d'alternative, toi. Alors maintenant, je me rappelle. Qu'il s'y reste la pêche du rivage, les marins pourraient aussi peut-être apprendre à cultiver la terre pour produire des fruits et des légumes complémentaires aux poissons et ainsi ne plus avoir faim. Durant nos échanges, Julio illustre ces beaux grands bateaux que les marins voyageaient dans sa terre. Tête et qui résiste aux tempêtes. Il a dessiné le bateau. Concernant l'évolution clinique de l'enfant, nous avons proposé de poursuivre la prise en charge familiale et intégrer Julio César au centre des jours à temps partiel. Prise en charge corporelle, groupe d'enfants, etc. Tout en maintenant l'enfant dans sa classe d'origine. Vous voulez savoir la fin de l'histoire du conte ?
Avant ça, je voudrais faire quelques petits commentaires pour lancer la discussion. Donc, l'importance pour nous, dans un contexte avec les enfants fortement troublés, de pouvoir intervenir à différents niveaux. Et je pense que la clinique du bébé, je pense que Bernard Gol ce matin nous l'a dit, toute l'importance aussi de l'importance des premiers liens, en tout cas sur la question du soin, qui nous semble très, très, très important dans cette situation-là. Parents qui nous décrivent très bien ce que l'on vit avec ces familles sur la nécessité d'avoir une grande interchangeabilité dans les rôles parentaux qui sont souvent malheureusement aux dépens de la différenciation entre les rôles paternels, maternels ou les fonctions paternelles et maternelles, et en particulier concernant justement la mise en place de l'autonomie de l'enfant. Je pense que le co-sleeping était partagé, en tout cas très, très utilisé chez eux, uniquement avec ce garçon-là. Et en quoi est-ce qu'on peut, disons, soutenir justement cette fonction de tierce que l'on a beaucoup, dont on a beaucoup parlé de ce matin, ça nous semble très, très important. Importance aussi de pouvoir proposer, disons, un abord développemental, hein, si on a parlé beaucoup des contents de la pensée. Freud, d'ailleurs, en définissait justement les deux feuillets, le feuillet externe de la fonction d'étayage, qui, chez cette maman, était très fort lié aussi à une compréhension développementale des difficultés de cet enfant qui avait des gros troubles d'hypersensibilité, de troubles de la régulation, et en quoi est-ce qu'on peut soutenir aussi cette fonction qui nous semble très, très, très importante également. Résonance aussi dans cette famille qui nous a très bien décrit ce sentiment de double étrangeté, l'étrangeté d'avoir un enfant différent dans lequel il ne se retrouve pas, dans lequel justement toute cette fonction de transmission disparaît peut-être dans une nécessité d'être reconnu comme bon parent et certainement dans une problématique migratoire justement d'intérieur et d'extérieur qui est très qui était très compliqué, enfin qui reste très compliqué pour eux, cette traversée du miroir et ce mouvement pendulaire entre l'intérieur et l'extérieur qui certainement fait écho à la problématique de l'enfant. Donc ce que nous proposons de façon systématique pour ce genre de situation, c'est une prise en charge à la fois qui est corporelle, dans un travail très de psychomotricité relationnelle qui nous paraît tout à fait nécessaire, où vraiment on va essayer, comme le disait Bernard Gol ce matin, de favoriser ces moments d'intersubjectivité, hein, vraiment lui offrant des bourgeons d'intersubjectivité, qui peut-être a la particularité, en tout cas dans notre travail par rapport à une prise en charge classique, d'associer systématiquement les parents dans la prise en charge. Donc dans une prise en charge corporelle, alternative, avec les parents, avec la mère, avec le père, avec les deux parents aussi, de façon vraiment à leur permettre de pouvoir soutenir des parents en souffrance, de ne pas pouvoir apaiser leur enfant, ne pas pouvoir mettre en place des prises en charge, en tout cas, disons, des situations dans la vie quotidienne qui sont particulièrement difficiles. Importance aussi dans le dispositif externe de nos objets internes comme thérapeute. C'est vrai que vous l'avez vu, Julio César va surtout s'apaiser quand il va saisir dans la poche ou dans le sac de sa mère ces objets nomades de technologie dans lesquels ils disparaissent, ces fonctions d'écran qui sont très importantes. Et peut-être de pouvoir s'appuyer sur certains objets qui nous sont familiers, qui sont issus de notre histoire professionnelle et histoire personnelle, et qui, justement, certains objets sont inatteignables. Et ça peut, je pense qu'ici, on voit très bien ce petit bronze qui est d'ailleurs une très belle métaphore, disons, de l'attention conjointe qui est particulièrement difficile chez ces parents-là, le pointage. Mais aussi, on en a beaucoup parlé de ces poupées gigognes qui trônent dans notre bureau et qui, paradoxalement, alors qu'on pourrait, on l'a beaucoup utilisé comme analogie avec les différents contenants, sont très fort utilisés chez les enfants, justement, par rapport à la problématique du double, hein, du double qui est une façon dont l'enfant autiste a la possibilité de découvrir la différence. Ils prennent les deux poupées qu'ils comparent, et c'est à partir du moment où on peut instaurer un jeu avec chacun la même poupée qu'on peut ébaucher une certaine symbolisation. Les jouets classiques, en particulier la fascination qu'ont les enfants autistes pour les dragons, hein, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ces êtres qui passent d'un univers marin, aquatique, à un autre univers. Et donc, ça nous semble important. La grenouille, on l'a vu aussi. Et puis aussi, ces objets vraiment créés, hein, ces objets avatars, ces objets de médiation, on utilise beaucoup. C'est quelque chose qui nous a beaucoup renseigné. Ce sont ces techniques d'enrobage que l'on utilise à la fois dans les consultations, mais également dans les groupes de parents et dans les groupes d'enfants, où on part à partir d'un objet familier auquel l'enfant s'attache et qu'il utilise souvent d'ailleurs à viser d'autostimulation, hein, ces enfants qui touchent le caractère sensoriel de l'objet, et à partir duquel on arrive, en tout cas comme ce coquillage qu'un enfant autiste faisait en permanence tourner sur lui-même, on a réussi par vraiment un travail d'enrobage, de mise en place de fils, de pouvoir l'envelopper complètement et puis de l'entourer d'un fil. Fil qui vraiment est certainement les fils de l'araignée que Bernard Goltz nous a donné, qui sont vraiment ces capacités d'enrobage et de mettre en place un récit. Et la mère invitée aussi à participer, à enrober, empaqueter, emmailloter un de ces objets familiers qui arrive alors à dérouler le fil de son histoire. Voilà, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Simplement, dans le conte, et ça peut être l'objet de la discussion, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre les différents mondes, hein, la terre et la mer, et cette impossibilité ou difficulté de pouvoir être à la fois homme de la terre et homme de la mer, qui est très bien mis en scène dans le conte, qui à mon avis est une bonne illustration de notre mouvement contre-transférentiel et des récits qui nous habitent, que l'on redécouvre à l'occasion des consultations, qui à mon avis témoigne bien de la conflictualité psychique double de l'enfant en rupture de filiation, mais également dans le processus migratoire, et ça nous semble quelque chose de très intéressant à travailler dans cet aspect de la conflictualité. Voilà, alors on laisse la place à la discussion ou on raconte la fin du conte, il faut choisir. La fin du conte ? Donc la fin du conte, elle est assez belle, donc c'est vrai que les marins malins vont démêler le méandre du troisième nœud et aussitôt ils vont être entraînés par un grand poisson dans le fond de la mer. Hein. Les marins vont le supplier, ils vont arriver dans un magnifique palais où trône le roi des mers qui leur demande d'un ton sévère: mais pourquoi mon poisson fidèle vous a-t-il amené ici et pourquoi tenez-vous en main le foulard de mon ami Ignacio? Les pêcheurs seront terrorisés et préfèrent tout avouer, et le roi leur explique alors: je veux faire ce foulard ensorcelé au père de ma fiancée, afin de le consoler et de lui enlever sa fille adorée. Les deux premiers nœuds étaient destinés à ce que Ignacio ne manque de rien, à ce qu'il pêche et se nourrisse bien, mais le troisième nœud ne devait être utilisé qu'en cas de très grands soucis. Quiconque le déféra à sa place sera englouti aussitôt dans les eaux et emprisonné dans ce château, sans avoir la possibilité de jamais remonter sur la terre. C'est alors que vient une femme dont la beauté ne pouvait être à nul autre être comparé, y compris bien sûr que c'était la fille d'Ignacio. Les marins la supplient alors au roi d'être pardonnée, et elles leur font faire la promesse que si vous promettez d'aller voir mon père, mais de lui dire de défaire tous les nœuds que je vais refaire à ce foulard ensorcelé, je vais demander au roi de vous délivrer. Les marins promirent et ils sont entraînés. Après une nuit, après un bon repas, comme celui de hier soir, ils s'endorment et au matin, ils sont réveillés par des petits poissons d'argent qui les ramènent à la surface, où à la place de leur bateau vogue un merveilleux vaisseau plein d'or, de pierreries, d'objets précieux et de soieries. Quand ils reviennent chez eux, les familles poussèrent des cris de joie, et avant de faire la fête, ils vont retrouver le vieux Ignacio à qui ils vont remettre le foulard avec les nœuds. Et bien sûr, dans la nuit, ils entendirent le vent qui se mettait à souffler et les vagues qui cognaient contre les rochers. Au matin, ils trouvèrent la maison abandonnée, le feu éteint dans la cheminée et Ignacio avait disparu. Les villages du pêcheur a retrouvé le bonheur, les enfants y mangent à leur faim et surtout, ils savent faire de leurs petites mains les plus beaux nœuds de marin qu'on puisse faire dans le monde entier.